Rock Body Good Radio, pour voir Rochecorbon à travers les oreilles de Saint-Coin. Rock Body Good Radio.
Ah ben on peut monter là. On va en profiter. Parce que le bâtiment va être démonté, le bâtiment de l'Observatoire. Parce que oui, il a une architecture un peu originale. Cette tour un peu haute qui permet de dominer les maisons et avoir une vue un peu plus large. Il a deux défauts cependant. Le premier défaut, c'est sa conception. Il est mal conçu, c'est tout rouillé, c'est tout foutu. Et puis l'autre conception, on va le voir. L'autre problème, c'est on va le voir, c'est en haut. Parce que l'Observatoire, qui est fait pour observer la Loire, et ce qu'on observe le mieux en haut, c'est pas la Loire. Donc on va monter.
Nous retrouvons Claude Métavant pour une balade à Rochecorbon. Il est président de l'association Le Phare, patrimoine et histoire à Rochecorbon et ses environs. Point de départ, l'Observatoire.
Alors le bord de Loire, c'est Tours Métropole qui est responsable de ce qui se fait, enfin ce qui se décide. Et donc c'est plus le dossier de la mairie. La mairie voulait le supprimer et puis finalement c'est Tours Métropole qui a repris le projet. Ils sont en train de réfléchir sur un aménagement complet de l'entrée du bourg. Voilà. Donc si on monte tout en haut, c'est de là qu'on a une très belle vue quand même. Voilà, donc c'était censé, on va être là pour observer la Loire. Alors là, on est encore l'hiver, ça va, il n'y a pas trop de feuillage. Mais l'été, quand tout est bien feuillu, en fait, la Loire, on n'en voit qu'un tout petit bout devant nous, c'est tout. Et puis en fait, c'est pas là qu'est la plus belle image de la Loire. C'est ce qu'on dit tous, c'est que la plus belle image, c'est quand on est au bord de la Loire et qu'on voit l'étendue d'un côté et de l'autre, à droite, à gauche, et on voit tout le profil de la vallée, ça c'est joli. Que là en face, juste voir un petit peu comme ça, un petit passage, c'est d'un intérêt très 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 relatif. Alors comme on dit, il s'appelle l'Observatoire, mais en fait, ce qui est le plus beau observé d'ici, c'est l'autre côté. Parce que là on a une très belle vue du coteau de Rochecorbon. Donc depuis sur la gauche vers l'ouest, donc là, tout le coteau et le coteau sur lequel il y a la petite lanterne, donc qui est le restant du château fort moyenâgeux qui était là, médiéval. Il y avait un grand château ici qui allait depuis la lanterne. Et puis sur la droite de la lanterne, jusqu'au bord du coteau, on voit une petite barrière qui était la limite du château. On voit un petit massif de pierre d'ailleurs, presque à la limite du bord du coteau, du bord droit du coteau. On voit une construction pierre. Et bien en fait, c'était le donjon. Il y avait un grand donjon carré qui était construit au-dessus. Et puis en dessous de cette partie de donjon, là, il y a quelques rangées de pierres qui restent. On voit, c'est l'ancien souterrain. Il y avait un souterrain qui démarrait dans le château, qui descendait jusqu'en bas et qui s'est écroulé à la fin du XVIIIe siècle. Donc le coteau s'est écroulé et a mis à jour le souterrain qui permettait d'accéder au plateau. Donc là, on voit bien, on a tout ce coteau-là. Ensuite, on a le creux de la vallée de Rochecorbon qui a été creusé par le petit ruisseau.
Et puis après, sur la droite, on voit le coteau qui se...
Sur la droite, le coteau qui se poursuit, donc avec en direction de Vauvert. Et en haut du coteau, eh ben, l'oppidum qui avait eu, avant notre ère. Il y avait un oppidum gaulois, une ville gauloise. Des villes comme ça, perchées gauloises en Indre-et-Loire, il y en a 3 ou 4. Donc il y en avait très peu. Il y avait quelques villes de plaine aussi, comme certainement à Tours, il devait y avoir quelque chose. Et même sûrement... Mais par contre, ces oppidums, ou oppidas, comme disent les spécialistes, il n'y en avait que, on va dire, 4 en Indre-et-Loire, 4 connus. Et il n'y en avait un ici. Il y avait une ville gauloise ici. Donc, ce qui était déjà construit, donc il y avait sur ce coteau à droite cet oppidum, et puis sur le coteau à gauche, le château fort construit à partir de un petit peu avant l'an 1000, donc 1000 ans après. Donc il y a 2000 ans à droite l'oppidum, il y a 1000 ans à gauche le château. Et qui a été construit sur à peu près le même principe, parce que le principe, c'était déjà, avant de faire toute construction que ce soit, on profite déjà des avantages naturels. Et bien, si l'avantage naturel, c'est on va les construire en haut des coteaux, et on voit que ces coteaux sont assez abrupts pour offrir déjà une belle protection. L'autre protection, c'est la Loire, parce que là, on est quand même protégé de toutes les brigands et autres armées qui pouvaient arriver du sud, qui protégeaient. Et puis l'autre protection, c'est la vallée de Rochecorbon, qui était une vallée marécageuse, très marécageuse jusqu'à peu près à la Révolution française, un petit peu moins par la suite, et puis complètement asséchée dans les années 60-70. Donc c'est quand même relativement récent. Mais donc cette vallée marécageuse faisait aussi une barrière naturelle. Donc on voit ce rocher qui était à l'angle de la Loire et de la vallée de la Belloire marécageuse et monté en haut sur des rochers. Donc déjà là, on avait déjà une bonne protection qui permettait de limiter après les constructions à faire au-dessus. Et on a la même chose de l'autre côté. Alors pourquoi ils ont passé d'un côté à l'autre? Ça, j'ai une explication à peu près possible, c'est de dire ce château qui a été construit en l'an 1000 était destiné à avertir la ville de Tours et surtout l'abbaye de Marmoutier des Vikings qui redescendaient la Loire, puisque les Vikings hivernaient vers Orléans à peu près, remontaient la Loire, hivernaient, puis ensuite redescendaient au printemps. Donc ici il y avait une petite vigie qui surveillait et qui indiquait quand les Vikings arrivaient. Ça a été construit pour ça, mais en fait les Vikings n'étaient plus jamais revenus à partir du moment où ils ont construit le château. C'est pas ça qui les a effrayés, hein, mais on ne les a plus jamais revus. Donc ça a été construit pas utilement finalement. Mais c'était le point de départ et ça a été construit par certainement l'archevêque de Tours. Et l'archevêque de Tours, un petit peu plus tard, vers 960-970, il va confier ce petit château fort, enfin ce petit poste de vigie qui était là, il va le confier à son neveu, un dénommé Corbon. Voilà, qui va être. Quand on va vouloir dire, mais c'est où cet endroit ici? Ben cet endroit ici, c'est les roches de Corbon. Et qui a donné donc Rupes Corbonis en latin, qui a été traduit en Roche Corbon tout de suite, en un seul mot. Et puis avec là devant, ça c'est Balzac. C'est Balzac qui tout début 19e, quand il va parler du lieu ici, va parler de la Roche-Corbon, qui ne s'est jamais appelé comme ça, mais bon. Donc on va lui pardonner, mais néanmoins, si c'était, ça a toujours été Rochecorbon d'un seul mot à partir du moment où c'est écrit en français. Non, alors les souterrains, il faut oublier les légendes des souterrains qui passaient sous la Loire. Ça c'est à peu près toutes les villes qui sont le long de la Loire ont toute cette légende d'un souterrain qui passait sous la Loire. Ça, on va oublier. Les souterrains qui permettent de relier à Marmoutier ou de relier à Vouvray, ou autre, ça c'est pareil, il faut oublier. On ne se rend pas compte. Quand on imagine un souterrain comme ça, le volume de terre que ça représentait à creuser de rochers, hein, et à évacuer, sachant qu'à l'époque, la main-d'œuvre, c'est jusqu'au 15e, la main-d'œuvre coûte, même un petit peu après d'ailleurs, ça coûte une fortune. Donc il aurait fallu employer des centaines de personnes à creuser pendant des années. Non, c'est impossible. Le seigneur lui-même, déjà, on voit que au 10e, 11e siècle, son château, il est qu'en bois. Hein. Il a pas de sous pour payer des pierres, des carriers qui vont aller tailler, etc. Mmh. Et puis transporter les pierres, ça coûte horriblement cher. Le transport par bateau, ça coûtait à peu près 10 fois moins cher que le transport par terre, comme il disait, par chariot. Donc le transport par chariot pour emmener des pierres dans un château, c'était vraiment une fortune. Et à l'époque, les petits seigneurs, ils n'étaient pas assez fortunés pour se payer ça. Donc c'est pas l'illusion de souterrains creusés, etc. Ça s'est créé au 19e siècle avec ces souterrains où on pouvait sortir du château et puis se retrouver après dans la campagne, etc. Pareil qu'en France, il y a 3 ou 4 cas qui existent comme ça. Mais les milliers d'autres châteaux, non, ils n'ont pas ça. Alors ce qui s'est juste passé, qui a alimenté aussi un peu la légende, c'est que pendant la guerre, lorsqu'il y avait les bombardements, les gens se réfugiaient dans les caves. Ils étaient quand même mieux protégés que dans les maisons. Par contre, leur inquiétude, c'est si jamais l'entrée de la cave s'éboulait. Donc tout ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient passé des accords avec les voisins et ils avaient creusé des petits conduits, des petits passages qui permettaient de passer d'une cave à l'autre, de telle sorte que s'il y a une entrée qui s'écroule, on pouvait s'évacuer par la cave voisine. Et donc, effectivement, il y a des moments, par petit boyau en petit boyau, on pouvait passer de cave en cave et avancer un peu dans le coteau. Alors, surtout là ici, ce coteau de Rochecorbon, qui est un vrai gruyère, hein, quand on voit les relevés, notamment de cavité 37, on voit que c'est un gruyère complet. Donc c'est vrai qu'en creusant de cave en cave, on peut aller loin, hein, on peut se déplacer. Mais après, les grands parcours, non. D'ailleurs, il suffit d'imaginer, sous ce château-là, il y avait la légende d'un souterrain qui aurait pu aller jusqu'à Vauvert. Alors le problème, c'est que pour aller entre les deux, là, entre les deux, il y a une vallée assez profonde, totalement marécageuse, avec un sol... C'est impossible de creuser en dessous. Hein. On est en dessous de la nappe phréatique, donc on serait inondé. Donc c'est... Non, c'est pas possible, mais la légende est jolie. On est face à l'auberge du Croissant. Alors l'auberge du Croissant, c'est une vieille auberge hein, qui était là bien avant la Révolution française. Et le Croissant, ça avait une signification à l'époque. Le Croissant, ça voulait dire auberge ouvert 24-24. Donc des auberges du Croissant, il y en a partout en France. Mais quand les gens passaient et qu'ils voyaient le Croissant, ça s'appelait. Alors des fois, il y avait un petit croissant de lune il y avait une petite pancarte qui le signalait. Donc ils savaient que là, ils pouvaient s'arrêter et trouver un hébergement et puis un petit truc à manger à quelque heure que ce soit, y compris la nuit. Donc c'est resté, le nom est resté ici. Donc en 1889, ici sur le quai de la Loire, va s'installer un tramway. Donc un tramway rural, voilà, à vapeur. Alors qu'à Tours, ils étaient encore avec des chevaux, ils sont restés encore longtemps après avec des chevaux. Mais ici, il y avait un tramway à vapeur avec une petite machine assez géniale. Et ce tramway, on payait un ticket pour quel que soit le parcours qu'on faisait au départ à la création. Donc c'est l'époque aussi des guinguettes. Donc les gens quittent la ville de Tours pour aller dans les guinguettes pour aller boire, puisque dans les guinguettes, c'est beaucoup moins cher qu'à Tours. À Tours, il y a l'octroi à l'entrée qui fait pratiquement doubler le prix du vin. Donc le vin est quand même très cher. Là, on prend un petit ticket, on va à Vouvray, hein, puisque de toute façon, puisqu'on paye le trajet, on va jusqu'au bout. Donc on va à Vouvray, puis à Vouvray, là, on va dans les guinguettes, on va boire un coup et on va faire la fête. Alors le problème à Rochecorbon, c'était déjà le même problème à l'époque, c'est qu'ils voyaient les gens passer pour aller à Vouvray. Donc ils ont eu une solution. Et la solution, on l'a en face. Là-haut aussi, on a mis un petit panneau. Voilà, à côté du passiflore, là, de notre fleuriste. On a mis un petit panneau, une carte postale de l'époque 1900. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre ici comme panneau? Un panneau marqué Terminus. Ce qui fait que le tramway s'arrêtait ici. Les gens voyaient le panneau Terminus, ils descendaient. On avait des petites guinguettes aussi. Puis après, le tramway repartait. Mais enfin, bon, ils étaient sur place. Il y avait ce qu'il fallait. On pouvait boire du vin sans problème. Là, il y avait des petites matelotes. Il y avait une salle de bal, etc. Donc, on était tout à fait dans l'ambiance guinguette. Les gens ne l'avaient pas regretté, mais on avait triché un peu en marquant Terminus. Donc déjà, à l'époque, on cherchait à faire arrêter les gens. On cherchait à les faire arrêter ici, dans le village de Rochecorbon, pas simplement passer sur cette nationale. Bon, là, on va rentrer dans le bourg. Alors, c'est là qu'on dit... Les gens, ils ne savent pas qu'il y a un bourg derrière. Surtout que ça se voit pas trop, parce que... Voilà, à peine ça commence, c'est pratiquement fermé au-dessus. Il y a un petit passage, mais on a l'impression que ça s'arrête là. En tout cas, ça n'invite pas à aller beaucoup plus loin. Ah, les gens ont tort. Et on a notre pharmacie ici. Notre pharmacie nous a autorisé à mettre sur le mur, là, une escroquerie, on va dire, médicale à la fin du 19e siècle, qui avait fait la fortune, notamment de la personne qui va construire ce beau château qu'on voit en face, dont il ne reste presque plus grand... presque plus grand chose là. Le château était bien plus grand que ça, donc il en reste un tiers du château. et qui avait installé dedans un institut qui soignait à peu près toutes les maladies possibles imaginables. Donc notamment avec ces petites plaques rondes, des petites plaques de cuivre en haut, de zinc en bas, puis au milieu un petit barreau aimanté qui était dedans, et qui soignait les cancers, enfin tous les tumeurs, tout était guéri avec ça. Donc il suffit de la plaquer sur la peau et puis de garder la nuit, et puis le lendemain ça allait beaucoup mieux. Voilà, donc ils vendaient ça. Alors pour que ça fasse un peu technique, donc c'était des plaques dynamodermiques, c'était un sanatorium vitaliste, on utilisait des mots un peu ronflants, on était toujours installé dans un bel établissement, etc. Ça se faisait un peu partout en France, mais celui qui va faire ça et qui va venir s'installer après à Rochecorbon, au début il a commencé à Paris, donc c'était le plus connu. C'était la société dynamodermique, électrogénique, enfin voilà. Donc on peut mettre des noms, tous les noms ronflants qu'on va bien vouloir mettre, et qui s'était installé ici, et qui avait installé un sanatorium vitaliste. Parce que vitaliste, pourquoi ? Leur idée à eux, c'était de dire, quand on soigne, ils estimaient les médicaments dégradant le corps humain. Dit en fait, dans le corps humain, quand il y avait un organe qui n'était pas bien, dont le niveau de vitalité s'était abaissé, on prenait un médicament, le médicament baissait tous les autres niveaux de vitalité aussi du corps, et comme ça on retrouvait un corps équilibré. Un corps équilibré bas, un corps équilibré. Et là ils disaient, mais non, ça c'est pas bien, ce qu'il faut c'est revitaliser l'organe qui est malade. Et par la revitalisation se faisait par ces petites plaques, ou par des appareils d'électrothérapie. Donc pour redynamiser cette petite partie. Et donc, eux, ils étaient contre les médicaments, ils étaient contre la chirurgie, ils disaient rien de truc intrusif. Donc, on se soigne par la lumière, par l'électricité, par les petites plaques de cuivre, métallothérapie, etc. Voilà. L'idée, c'était de dire, pas d'invasion dans le corps humain. Et puis, ça va dégénérer parce qu'ils affirment effectivement tout soigner, tout ce qui est possible, imaginable. Ils vendaient une petite plaque métallique qui était de la grosseur d'une pièce, qu'on collait sur la tempe des gens qui avaient fait un AVC ou qui avaient fait un malaise, et dans les 5 minutes, ils se relevaient et c'était reparti. Donc ils avaient comme ça plein de témoignages de gens malades, dont on sait que la majorité a été inventée. La personne qui gérait ça, M. Moron, se prétendait médecin, il n'était pas du tout médecin. Il a été plusieurs fois condamné, et à chaque fois qu'il était condamné, il changeait de nom. Donc enfin voilà, donc il a fait sa petite escroquerie, ça lui a permis de bien vivre. Et puis après, ça a disparu dans les années 1910, 1920, c'était terminé. Parce que là, la vraie médecine, cette fois-ci, reprenait le pouvoir, montrait des vraies guérisons et pas simplement des impressions comme ça. Par exemple, ils soignaient pour les gens qui avaient les cancers des poumons ou de la phtisie, tuberculose, ils les soignaient avec du goudron, en inhumant du goudron. Donc ils prenaient des cigarettes, ils remettaient du goudron dessus, et en fait, ce goudron-là, il avait un effet anesthésiant. Ce qui fait que la personne, elle mourait beaucoup plus vite, mais en bonne santé. Voilà, ça raccourcissait la vie, mais par contre, dans une situation un peu plus acceptable pour la personne. Bon, ça, on ne le savait pas au début, c'est après on s'est rendu compte qu'en fait, que les gens disparaissaient très vite derrière. Ils avaient l'impression d'aller mieux, et puis en fait, ils disparaissaient très vite derrière. Et donc, tout ça a disparu. Donc là, la pharmacie nous a autorisé à mettre ces panneaux-là d'une fausse pharmacie de l'époque. Voilà, le même bâtiment, il a servi ici là, d'hôpital pendant la guerre de 14-18. Hein. Au début, là, quand tout à coup, les premières vagues au mois d'août 14, quand ils commencent à ramener des centaines de milliers de blessés sur l'arrière, donc là, c'est la panique, les hôpitaux sont débordés, donc on va créer des hôpitaux partout. Donc il y aura les hôpitaux qui appartiennent à l'armée, les hôpitaux civils, il va y avoir des hôpitaux privés, enfin, etc. Et on va réquisitionner des bâtiments, dont ce château ici, où il va y avoir un centre pour les blessés, de rééducation. Et après, ce centre-là va être donné aux Américains, qui vont faire un centre pour les blessés américains aveugles. Donc ceux qui ont été victimes de l'hypérite sur le front là, nord de la France, nord et Belgique. Donc ils vont venir ici et on va leur apprendre à fabriquer des brosses, à apprendre même à écrire à la machine à écrire. Et à taper. Et donc voilà, il va y avoir ce centre qui va travailler jusqu'en 19, hein, parce que les derniers blessés récupérés, ils vont continuer de les réadapter, là, de leur expliquer, leur redonner un métier, on va dire. puis après le bâtiment sera rendu. Et puis ce bâtiment va être acheté après-guerre par un lotisseur. Donc il y avait un bâtiment avec un immense parc. Le parc va être loti. Donc ce grand bâtiment en briques, là, pierre et briques. Donc le parc va être loti. Les gens vont pouvoir construire des maisons et le lotisseur va dire je vous vends les pierres du château pour construire votre maison. Donc si on regarde par exemple cette première maison là à droite avec la petite barrière en bois, bah derrière il y a une balustrade en pierre, c'est les balustrades en pierre du château. Donc tout ça, le château va se démonter, ils vont avoir du mal parce qu'il est tellement bien fait. C'est une construction de 1900 hein, ce château. Et il est tellement bien fait qu'ils n'arrivent pas à désolidariser les pierres sont bien collées entre elles, donc ils cassent beaucoup de pierres. Donc au bout d'un moment, ils abandonnent. De toute façon, le lotisseur, il fait faillite. Et donc le château, la démolition va s'arrêter à un moment. Et donc là, ils vont refaire un mur propre, ils vont refaire un toit au-dessus de la partie restante. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce bout-là de château? Ben voilà. Donc là, après, on va aller emprunter, une fois passé le château, on va tourner à droite, là, après le Crédit Agricole, et on va aller dans la rue du Moulin. Alors, rue du Moulin, parce qu'il y a un moulin. Bon, c'était un moulin à eau, hein, on n'en verra plus la roue, hein, ça n'existe plus. Mais par contre, cette rue, on va toujours rebondir sur l'idée de ce propriétaire, M. Moron, qui avait construit le château. Il avait voulu quelque chose de remarquable dans son château. Il avait voulu qu'en 1900, il y ait toutes les modernités possibles. Et donc, et notamment en particulier, il avait l'eau courante chez lui. Alors que l'eau courante à Rochecorbon, c'est la fin des années 1960. Donc, il était très avant. Et il voulait aussi l'électricité. C'est pareil, l'électricité qui va arriver 10-15 ans après. Donc, pour avoir toute cette modernité... pour avoir l'électricité, il avait acheté le moulin qui est à côté et il avait transformé la roue à aube en centrale électrique. Donc il avait acheté une turbine, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était des turbines dites américaines, donc qu'il va installer dans son moulin et qui va lui servir à produire sa propre électricité. Ce qui lui permettait de faire le soir il faisait des fêtes dans le parc avec des lampions électriques, etc. Donc c'était très impressionnant pour l'époque. Voilà. Là, quand on arrive juste avant la place, dite place des HLM, donc le moulin est sur la droite, donc ça c'est l'ancien moulin, et sur la gauche on voit encore les vannes d'ailleurs, les vannes qui permettaient de réguler l'arrivée d'eau qui passe sous la route et qui allait alimenter ce moulin. Donc le moulin, la roue démontée, installé une turbine qui produit l'électricité. Et puis l'autre chose, c'est qu'il voulait aussi de l'eau courante. Donc pour avoir de l'eau courante dans sa maison, il fallait qu'il construise un petit château d'eau. Mais comme il avait des ambitions un peu de seigneur, hein, puisqu'il se construit ce château, etc. Il va se construire un château d'eau qu'il va déguiser, qu'il va maquiller en pigeonnier. Donc à l'intérieur de ce pigeonnier qu'on voit, à l'intérieur il y avait deux cuves qui permettaient de stocker de l'eau. Donc il y avait une petite pompe alimentée par l'électricité, il chargeait l'eau dans le château d'eau. Et puis après, derrière, ils allaient distribuer quelques pièces dans l'habitation. Et là, aujourd'hui, les cuves, elles ont disparu à l'intérieur. Donc, il a retrouvé, cette fois-ci, une fonction de pigeonnier. Quoique, je ne sais pas s'il y a des pigeons, vraiment. On n'en voit pas beaucoup. Enfin, voilà. Donc, c'était ce truc déguisé. Place des HLM. Alors ici, dans cette rue, la rue du Moulin, c'est une rue qui normalement est de 2-3 mètres au-dessus du niveau du sol. Donc c'était une rue qui était à 3 mètres au-dessus du niveau du sol, mais qu'on a comblé des deux côtés petit à petit. Notamment ici, c'était ça a été pendant très longtemps la déchetterie de Rochecorbon. C'était aussi l'endroit où, quand il y avait des gros éboulements dans la rue des Basses-Rivières, quand il fallait évacuer les rochers, on venait tout décharger ici. Donc finalement, on a fait remonter le niveau du sol ici. Sinon, cette rue-là était beaucoup plus basse. Enfin, le sol était beaucoup plus bas que la route. Donc c'est une route qui a été construite vraisemblablement, cette route-là, par le seigneur de Rochecorbon. Et c'était une route en digue, construite en hauteur, qui permettait de traverser cette vallée marécageuse. Donc la hauteur du sol, on la voit bien quand on arrivera au bout de la rue. Parce que là, ils ont moins comblé. Et on voit que le sol est... Et on va voir notamment le ruisseau qui est très bas. Alors qu'avant, c'est la plaine, elle était à hauteur du ruisseau. Voilà, donc on voit bien que il y a un sacré dénivelé. Soit d'un côté ou de l'autre. Le ruisseau paraît très bas. Alors qu'en fait, avant, la plaine était à peu près au niveau de ce petit ruisseau. Donc cette route a été construite en hauteur pour traverser ce marécage. Et notamment ici, un endroit particulier sur ce petit pont. Ce petit pont, il a un nom. Donc il a eu un nom qui s'appelait le pont de la Bédoire. Alors Bédoire, il y a plusieurs origines. Hein, on a souvent pensé que ça voulait dire abreuvoir, mais ça voulait dire aussi marécage. Et là, ici, c'est vraiment typiquement de la vallée. Ici, dans cette vallée-là, c'était le marécage qui était prenant tout le long de la vallée. Hein, si on la remonte loin de Rochecorbon, tous les noms de lieux évoquent quelque part le marécage. Et donc ici, c'était le pont du marécage, quoi, le pont qui permettait aussi de passer au-dessus du marécage. Et puis, le ruisseau de Rochecorbon, il n'a jamais eu de nom, jusque dans les années, jusqu'après-guerre, 1950, il n'y avait pas de nom. Et puis, les premiers géographes là, qui ont commencé, ou le Conseil Général qui a travaillé un peu sur les aménagements de ruisseaux, donc il a appris ici que c'était le pont de la Bédoire, et ils ont pensé que c'était comme le pont de la Loire ou le pont du Cher, et donc la rivière en dessous s'appelait la Bédoire. Et donc on va l'appeler on va appeler le ruisseau la Bédoire, donc qui est vraiment un nom du XXe siècle, mais copié d'un nom très ancien, lui, qui signifiait le pont ici du marécage. On trouve au 19e d'ailleurs, dans tous les textes, c'est écrit avec la prononciation de l'époque, la Bédoire. Voilà, Bédoire. Ici, le petit moulin qu'on est passé devant, c'est le moulin de Gravaux, V-O-T. Mais à l'époque, en Touraine, on prononçait les T finaux, comme genre le Lot, le département du Lot. Ben donc, les gens, ils ont dit Gravotte. Et ensuite, c'est devenu donc le moulin de Gravotte. Voilà, là, on est dans la rue des Clouets, parce qu'on dit que le peintre de François Ier avait ici une petite maison, ce qui se faisait très couramment à l'époque, une petite maison de campagne dans laquelle généralement les épouses venaient accoucher, comme Rabelais avec la devinière. Voilà, Madame Rabelais va accoucher à la campagne, va y laisser d'ailleurs l'enfant en plusieurs années en nourrice, et puis après ils récupéreront l'enfant. Donc là, ici, il y a eu la même chose, certainement. Donc avec Jean Clouet, qui a eu son fils François Clouet ici, qui deviendra lui aussi peintre officiel du roi. Et donc, on dit qu'ils avaient une maison ici, à l'entrée là, du bourg. Mais cette maison n'existe plus, parce qu'en 1944, il y a un bombardier allié qui va lâcher ses bombes ici sur Rochecorbon. Certainement un bombardier qui avait été touché par la DCA allemande. Et comme il devait retourner en Angleterre, donc il ne peut pas retourner en Angleterre plein, surtout qu'il devait être léger et touché, on imagine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se délaisse de ses bombes pour pouvoir repartir. Donc, il va traverser toute la commune de Rochecorbon, il va lâcher toutes ses bombes sur Rochecorbon. Et ici, il va notamment faire exploser tout le quartier et toutes les maisons anciennes. La maison des Clouets a disparu. Voilà. Donc, après, ici, la petite coiffeuse, là. On va pouvoir prendre le chemin de l'oppidum, le sentier. Voilà, on est dans le sentier de l'oppidum. Donc c'est un petit sentier qui est très réputé. Quand on voit sur internet, il y a beaucoup de coureurs à pied là, qui viennent ici parce que la montée elle est raide. Hein. Quand on arrive en haut, on manque un peu de souffle. Donc nous on va pas aller jusqu'en haut. Mais bon, le démarrage donne un peu l'ambiance. Alors pour l'instant, ça va, c'est goudronné. Après, ça va devenir en terre. Voilà. Donc en bas, on avait eu la rue des Clouets. Là, on va arriver dans la rue qui est au-dessus de la rue des Clouets. Donc ça va être le sentier des Hauts Clouets. Et là, on abandonne le sentier de l'Oppidum et on va prendre le sentier des Hauts Clouets. Voilà, c'est... Bon, ça fait quelques mètres, là, mais... Un petit peu de souffle. Voilà, ça, c'est un petit sentier qui est peu connu, mais qui nous donne une jolie perspective sur la lanterne de Rochecorbon, sur la ville de Tours à l'horizon. L'entrée un peu du bourg, là, on voit bien cette vallée. Donc, on voit bien les constructions des maisons qui sont en face sur l'autre coteau, qui sont à mi-coteau. Et puis dans le bas, il n'y a rien. Bon, il y a quelques constructions modernes maintenant, que, comme j'ai dit, après les années 50-60, 60-70 même. Mais donc, sinon, le village, tout était construit à mi-coteau. À mi-coteau du côté est et à mi-coteau du côté ouest. Et pour se préserver à la fois du marécage qu'il y a au fond, et puis on ne va pas construire le village non plus au-dessus, parce qu'au-dessus, on réserve les terres pour les produits, pour les parties agricoles, la forêt, parce qu'on a besoin de beaucoup de bois, etc. Donc toutes les terres utiles, on ne les occupe pas. On s'installe à mi-coteau, où là, on ne pourrait rien faire d'autre. Voilà. Un autre panneau. Ouais. Faibli, là. L'image. Donc là, on voit ici les anciens bâtiments, tout ça, ça a disparu. C'est là qu'ils ont été construits, le château, le grand château, à la place de la petite seigneurie d'avant. Donc là, on est dans un univers troglodytique. Les gens, là, pratiquement, les maisons sont toutes creusées dans la roche. J'ai l'impression qu'on est chez les gens, alors qu'en fait, c'est une rue publique, mais... Donc c'est vrai que là, on est là, à mi-coteau. Donc la population s'est installée dans le vallon de Rochecorbon, donc à mi-coteau, dans des caves troglodytiques, caves demeurantes. Et puis, c'est bien plus tardif, hein, c'est bien après la Révolution française et plutôt essentiellement au XXe siècle qu'on va construire devant toutes ces caves. Donc on a les parties caves qui est habitée et puis on va construire des maisons devant. Ça va généralement commencer par une petite pièce, une seule pièce, qui est la cuisine. Parce qu'on sort les cuisines des caves, parce que dans la cave, la cuisine, ça génère énormément de vapeur d'eau. Et dans la cave, la vapeur d'eau, elle reste. Donc déjà une cave, ça a déjà une tendance à être naturellement un petit peu humide. Alors ça dépend de la cave, hein. Ici comme c'est des caves qui sont à mi-coteau, elles sont quand même relativement sèches. C'est les caves qui sont en bas de coteau qui sont très humides, parce que plus on se rapproche de la nappe phréatique et plus c'est humide, et plus on monte dans le coteau et plus c'est sec. Donc là c'est des caves qui sont quand même relativement sèches, mais si à l'intérieur on fait de la cuisine, là, l'humidité elle reste. Donc les premières constructions qui vont se faire fin 19e et puis début 20e, c'était surtout une petite pièce devant pour mettre la cuisine. Pour la sortir. Donc on dort toujours dans le coteau, mais on va à la cuisine. Puis après, petit à petit, on va s'étendre devant, ce qui fait qu'on va avoir ici, pratiquement dans la rue, un mur continu, donc de maisons, qui nous cache les caves troglodytiques qu'il y avait derrière. Oh, là, c'est tout des caves. Hein. Derrière les maisons, oui, là, de temps en temps, on a une percée, on a une vue, on peut voir derrière qu'il y a bien toujours toutes ces caves qui sont. Et on construisait les maisons devant. Alors ici, on le voit pas très bien, parce que ici, c'était le côté pauvre de Rochecorbon. La population pauvre était de ce côté-là. La population plus aisée était de l'autre côté du vallon, sur la partie ouest. Pourquoi ? C'est parce que la vallée ici est dissymétrique. Le vallon est dissymétrique, la rivière de la Bédoire est sur le côté est. Donc sur le côté ouest, donc les propriétaires avaient des grands terrains qui venaient jusqu'au ruisseau, Donc ils avaient leur maison à mi-coteau et puis devant la maison tout le grand terrain qui allait jusqu'au ruisseau. Alors que de l'autre côté où on est ici, le ruisseau étant pratiquement au pied du coteau, et ben en fait les gens n'ont pas de terrain. Donc c'était les personnes qui étaient plus humbles, qui simplement c'était leur petite maison d'habitation. Puis après ils avaient quelques vignes au-dessus, puis quelques petits bouts de terrain, puis voilà, c'est tout ce qu'ils avaient. Alors que de l'autre côté, c'était les grands propriétaires. On a la même chose dans le vallon Saint-Georges, à Rochecorbon. Et on a aussi la même chose à Vauvert, mais Vauvert c'est inversé cette fois-ci. Le ruisseau il est plutôt sur côté ouest, donc les belles propriétés qui sont côté est. Mais on retrouve à peu près le même principe, hein. S'il y a une vallée dissymétrique comme ça, bah, effectivement il y a un côté, ils sont plus à l'étroit, donc c'est pour les petites gens. Et puis le côté qui est plus large, c'est pour les personnes aisées. Donc ici on est côté des petites gens. Et donc avec les caves, alors néanmoins, toi, on en voit ici, on voit l'exemple, là, le Morier. Le Morier, c'est une toute petite seigneurie dans Rochecorbon. Mais quand on va construire une maison devant, on construit la maison perpendiculaire au coteau et à la route. Alors pourquoi ? Ben, c'est pour ne pas obstruer l'entrée des caves. Pour ne pas boucher l'entrée des caves vigneronnes, hein, généralement. Et donc, on va construire ces maisons-là, ce qui fait qu'on va avoir dans la rue un mur, un pignon de maison, un mur, un pignon de maison, un mur, un pignon de maison. Alors certains ont mis l'hypothèse en disant oui, mais en le mettant comme ça, il bénéficiait le mieux possible du soleil. Donc c'est peut-être pour ça, mais non. Parce qu'après, quand la rue elle tourne, et notamment la rue quand on va arriver dans la rue des Basses-Rivières où on a la même chose à Bourgard, quand la rue tourne, les maisons suivent le mouvement. Et donc quand on va se retrouver un coteau qui est face au sud, eh ben, on va voir néanmoins les maisons toujours perpendiculaires, il n'y aura plus que le pignon que le soleil. Donc le raisonnement de dire que c'était la lumière qui orientait les maisons, mais non, ça ne tient pas, parce qu'on voit bien que dans les autres rues, ce n'est pas du tout fait comme ça. Et donc là, c'était bien la raison, c'est pour ne pas obstruer l'entrée des caves. C'est une toute petite seigneurie, elle avait la grange à droite, là, qui reste encore une petite partie en bois. À gauche, il y avait la maison seigneuriale, et puis ces caves étaient en dessous. En dessous, il y avait ils avaient juste les caves, et c'est tout ce qu'il y avait dans la seigneurie, il n'y avait pas plus que ça. C'était tout petit, minuscule. Mais c'est une seigneurie, des petites seigneuries comme ça, il y en avait partout, partout en France. Parce que il y avait à l'époque, dans les coutumes, il y avait un principe, c'est que pour être noble, fallait posséder au moins 3 ou 4 ou 5 propriétés, 5 fiefs. Donc, comme les nobles se multipliaient, c'est des petits nobles, hein. Ils étaient écuyers. Et comme ça se multipliait, eh ben, il fallait de plus en plus de propriétés, donc peu importe la surface de propriété, du moment qu'elle avait le nom et le statut de fief, ça comptait. Donc si on possédait 2-3 belles grandes propriétés, bah, pour être noble, eh ben, il fallait en racheter quelques autres de plus, y compris qu'elles soient minuscules, c'est pas bien grave. Voilà, là on est monté un petit peu plus, et là on voit bien en face de l'autre côté, donc toutes ces constructions qui sont à mi-coteau. Donc la plaine marécageuse en bas, et ensuite le coteau, les maisons qui sont construites, et les maisons, généralement, enfin tout ce qui est des maisons anciennes, on ne voit que des pignons. Après, ils vont étendre, puis ils vont rajouter quelques maisons transversales, mais sinon, on ne voit que des pignons. Et puis, ce coteau qui est soutenu aussi par des murs. Et ça, pourquoi ? Ben parce que quand on va construire les rues ici, donc au départ, il y a un petit chemin qui est sur le coteau. On va commencer à creuser des petites troglodytes, mais dès qu'on va vouloir construire des maisons et autres, bah, il n'y a pas la place, on est sur le coteau. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va tailler dans le coteau, on va tailler une face verticale, et toutes les roches là, qu'on va déblayer de ce coteau taillé, eh ben, on va construire un mur de soutènement, on va les jeter devant ce mur de soutènement, et par ce mur de soutènement et tous les débris qu'on a mis dessus, eh ben, là on va créer la rue. Donc la rue est créée, donc on voit le mur de soutènement, la rue, ensuite derrière la partie plate où on va construire la maison, et là on retrouve une taille qui des fois aussi peut être soutenue par un mur avant le haut du coteau, le plateau. Et là les deux côtés sont faits à peu près de la même façon. Alors sur le côté ouest c'est encore plus flagrant, mais sur ce côté coteau ici aussi, là, la rue ici, si on regarde cette rue, elle est soutenue par un mur qui est très haut. Voilà. C'est des petites routes, ici c'est quand même relativement étroit parce qu'on n'a pas la place, hein, sur le coteau. Et effectivement, si on voulait faire une route encore plus large, bah, il faudra encore faire des murs encore plus hauts, ramener encore plus de terre. de rochers. Donc c'est pour ça qu'ici, toutes ces rues, y compris la rue principale, la grande rue de Rochecorbon, la rue du docteur Leblay, bah, c'est une rue très étroite, quoi. On a du mal à se croiser. Alors, bon, est-ce qu'on peut redescendre ici? Non, on va continuer les autres rues après. On va continuer. Donc à Rochecorbon, ça monte et ça descend beaucoup. Hein. On a le fond de la vallée, d'accord, qui est plat. Mais dès qu'on veut s'en écarter, bah forcément, derrière, c'est des petites grimpettes. Donc,
bonjour.
Bonjour. Donc en vélo, avec un vélo électrique, ça va. Et encore. Ouais, c'est quand même très dur. Là, on va arriver. Là aussi, c'est sur la droite. C'est un petit chemin qui monte vers l'oppidum. Et là aussi, elle est très raide. Donc je fais aussi à vélo, j'ai un vélo électrique, mais là, si j'appuie pas sur les pédales, hein, on monte pas. Voilà, la rue des Hautes-Gâtinières. À Hautes-Gâtinières, parce qu'en bas, c'est toujours, comme je l'ai dit, hein, c'est la vallée marécageuse. Donc c'était des terres sur lesquelles on pouvait rien mettre. C'était des terres qu'on appelait gâtées, d'où le nom Gâtinières. Gâtinières, c'est les terres gâtées où on peut rien... Enfin, il n'y a rien qui pousse vraiment, à part une petite végétation naturelle, des petits buissons ou des, voilà, et un peu d'herbe. Sinon, il n'y a rien qui pousse. Donc en bas, les Gâtinières. Tout à l'heure, on avait la rue des Clouets, au-dessus, les Hauts-Clouets. Là, en bas, on a les Gâtinières, au-dessus, les Hautes-Gâtinières. Ouais, les maisons ici, alors on n'a pas de belles... Ici, c'est le côté humble, donc on n'a pas de belles maisons. Mais on voit cette logique, alors c'est surtout au 18e, du 7e et 18e, où dans les maisons, les populations, les familles commencent à s'agrandir, mortalité infantile baisse un petit peu, etc. Donc on a un peu plus de monde, donc on a besoin de beaucoup plus de place à la maison, dans la maison. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sort à l'extérieur de maison les escaliers. Les escaliers, on les met à l'extérieur. Alors pour les populations humbles, là c'est un petit escalier qui est un petit escalier en pierre à l'extérieur. Pour les populations les plus aisées, généralement on construit une petite tour avec la tour escalier qui est rattachée à la maison, qu'on met soit à l'arrière de la maison parce que c'est pas très beau, c'est une petite tour carrée simple. Si on a beaucoup d'argent cette fois-ci, on va faire un escalier un peu plus amélioré et un escalier... Bonjour madame,
monsieur.
Vous inquiétez pas, regardez votre escalier, vous voyez.
Ah bon.
Et donc, des fois, on construit des tourelles un peu plus jolies, et dans ce cas-là, on va les mettre plutôt en façade, que ça se voit. Donc, dans la rue, on voit là, ici, des cheminées. Là, celle-ci, il y a une belle grosse cheminée, là, sur la gauche. Ben, ça veut dire qu'en dessous, là, il y a une pièce. Là, en dessous de la route, là où on passe, et ben là, cette fois-ci, il y a une... Il y a une pièce habitée, chauffée. À l'époque, on voyait jusqu'à la Révolution française, il y avait les caves, et puis il y avait les caves à cheminée. Les caves, c'était l'habitation ordinaire de celui qui n'avait pas d'argent. Puis la cave à cheminée, ça voulait dire déjà un petit peu le premier niveau au-dessus, donc qui nécessite du bois, qui nécessite du stockage, un peu de... Voilà. La construction d'une cheminée, ce qui n'était pas toujours très simple, il fallait creuser le coteau, construire quelque chose au-dessus, etc. Donc il y avait cave sans cheminée et cave à cheminée. Mais dans les maisons aussi, hein, dans les maisons de petits bourgeois, il y avait les pièces étaient chauffées, pièces à cheminée, puis il y avait quelques pièces qui n'étaient pas chauffées, des fois même les pièces des employés de maison, où on savait faire les différences. Voilà, on voit de temps en temps, on a quelques belles maisons qui se sont construites ici, mais assez tardivement. Sinon, on a donc cette vallée. Alors, dans cette vallée, on voit là, on approche de l'église, mais toutes les constructions qui sont en bas, c'est toutes des constructions récentes, on va dire modernes, en tout cas post-révolutionnaires. Et ce qui veut dire qu'à l'époque, le village, jusqu'à la Révolution, avait une très grande particularité. C'est qu'on avait une population qui était installée sur le mi-coteau à l'ouest, une personne qui était au mi-coteau à l'est. Entre les deux, il n'y avait rien, sauf l'église, qui était toute seule loin, pas loin de la population, mais quand même elle est assez éloignée. On n'est pas du tout dans l'image du village, avec l'église au milieu, puis toutes les constructions qui se font autour. Et bien là, pas du tout. Là, on avait une ligne d'un côté, une ligne de l'autre côté, et puis au milieu, là, toute seule, l'église. C'est quand même quelque chose de très, très, très particulier. Dans les petites rues, alors celle-là, ici, elle ne le fait pas trop, mais la rue des Basses-Rivières, elle le fait plus. Donc c'était des petites rues qui étaient droites et puis qui étaient à peu près planes. Mais ensuite, les coteaux, de temps en temps, il y a des éboulements. Et quand il y a un éboulement qui vient et qui recouvre la route, bah déblayer, déjà comme je l'ai déjà dit avant, enfin, déblayer ça coûte très cher en main-d'œuvre, etc. Donc des fois, la solution la plus simple, c'est qu'on refaisait la route par au-dessus des gravats. Et donc celle-ci ici, c'est un peu moins visible. Dans la rue des Basses-Rivières, c'est encore plus visible. Rue des Basses-Rivières, à chaque fois qu'il y a une bosse dans la rue, eh ben, on regarde à droite sur le coteau, et ben là il y a eu un éboulement. Toujours ces petites caves. Là, une autre solution là, pour ne pas boucher l'entrée de la cave. On construit la pièce au-dessus. Donc on avait vu dans la rue, quand on avait remonté la rue tout à l'heure, il y avait une construction au bois aussi, une petite grange, qui était construite au-dessus, qu'on puisse passer en dessous. Donc ça, c'est vraiment quand la personne n'avait pas assez de largeur pour pouvoir faire une maison, eh ben, elle a construit la pièce habitable au-dessus de l'entrée. Je ne sais pas si ici on voit. Mais ça va encore. Et sinon, des fois, s'ils veulent construire une maison, alors là, on est en train de marcher vers le nord. Donc sur la droite, c'est le coteau. Et puis sur la gauche, donc c'est la vallée. Ça descend très vite. Donc si on veut construire après des maisons à cet endroit-là, eh ben, on est obligé de les construire sur pilotis ou très élevés, parce que c'est le vide derrière. Alors, on a un collectionneur de voitures. Voilà. Donc là, il est en train de régler certainement sa voiture. Bonjour. Ça brûle autant d'huile que d'essence. Donc monsieur a une collection et puis il les restaure. Hein. Lui-même il restaure ses voitures. Oh, regarde, c'est joli ça.
Comme dans les bateaux.
Ah ouais, c'est chouette. Hein.
Au début du siècle dernier, ouais, les bateaux, ils avaient le même système, les tiroirs comme ça avec les poignées. Ouais, ouais. C'est en acajou, c'est pas du Made in China. Hein.
Monsieur Fortin, collectionneur de vieilles voitures.
Voilà, donc des fois quand on passe ici, la porte est ouverte et on peut...
Bah, quand je suis là, parce qu'il fait beau et puis j'ai été chercher de l'essence pour faire tourner un peu. Voilà. Et vous enregistrez quoi là?
Une petite déambulation dans Rochecorbon.
Ouais.
On regarde un petit peu ce qu'il y a. La constitution de la rue, là, etc.
Vous avez vu les modillons sur les maisons, là. Les morceaux de statues des corniches, il y en a
pas
mal.
Oui.
Moi, j'en ai chez moi, j'ai une tête de lion, une coquille Saint-Jacques. À la Révolution, on a dû... Il y a des maisons, on voit sur le haut, dans le mur, de sceller des têtes...
Oui, ils faisaient ça au-dessus des portes.
Ouais, on avait
oui, des fenêtres, oui.
Oui, il y en a aussi.
Ouais.
Non, ça porte, lui... pas le grand portail, mais la petite porte est chouette. Elle a des ferrures qui sont très vieilles pour...
C'est là?
Ah oui, oui.
Ici? C'est la maison de M. Blondel.
Oui, qui était M. Ouais. Blondel.
Ouais, qui a écrit...
Je l'ai connu, M. Blondel.
Ah oui, qui a écrit le premier livre d'histoire sur Rochecorbon.
C'est un type extraordinaire. Eh bien, moi, j'ai connu, je suis arrivé en 80 ici.
Oui.
Il y a 42 ans.
Ouais.
J'ai connu, il était très, très intéressant.
Son livre, c'est en 76.
Oui, il m'a donné un et dédicacé. Oui.
Ah oui?
Oui, oui.
Ah, sympa.
Ah oui, c'est un monsieur très très bien.
C'est une personne qui a écrit l'histoire de Rochecorbon. Alors l'histoire de Rochecorbon avait déjà été écrite il y a un siècle. Il y a un siècle, en 1921, par le curé de l'abbé Savoie.
Ah, par un curé?
Oui.
Qui était curé de Rochecorbon.
Oui, le curé de Rochecorbon qui, dans le bulletin paroissial, va raconter l'histoire de Rochecorbon. Alors une histoire un petit peu agrémentée, très... très empreint de catholicité, etc. Mais Néanmoins, c'est le premier qui va écrire quelque chose. Et puis, il va se passer une cinquantaine d'années. Et puis là, c'est Blondel avec toute une équipe. Hein. Ils étaient pas mal dedans. Qui vont aller fouiller, récupérer un peu toutes les informations et faire un premier livre renéotypé sur l'histoire de la commune.
Il y a trace de ce livre-là, non ? Vous avez des traces de ce livre-là, non ?
Le livre, je l'ai, mais... Alors, ah ouais. Par contre, quand je suis allé aux archives de la commune, parce que moi, je retravaille aussi sur réécrire l'histoire, les historiens disent une histoire, il faut la réécrire tous les 20 ans, parce qu'elle vieillit. Bon, bah, nous, ici, à Rochecorbon, ce sera tous les 50 ans. Donc là, je suis en train de réécrire. Et donc, je suis allé aux archives de la commune pour aller regarder les registres de délibération. Et dans les registres de délibération, il y a plein de petites feuilles de papier, de rappel, etc. C'est des enveloppes de courrier de M. Blondel qu'il a découpé, qu'il a arraché pour faire des petits marque-pages. Dans le registre, on a régulièrement un petit papier, une enveloppe de M. Blondel qui vient de je ne sais pas quoi, etc. Donc voilà, j'ai ces petites traces. Non, je ne sais pas ce qu'il avait fait.
Mais au début, moi, je s'occupais longtemps de Chapelle Saint-Georges. Patrick Leloup, que je connaissais, parce que je suis arrivé à Tours, j'étais dans l'assurance et c'était un avocat stagiaire avec Mathieu Clouquier. C'était avocat de la compagnie quand je suis arrivé. Et il a fait des recherches et il avait trouvé tout l'inventaire de ce qu'il y avait dans la chapelle avant la Révolution.
Ah mais ça on l'a, ça on a tout ça, oui.
Je me rappelle, il avait trouvé ça.
Oui, parce que notamment au moment de la Révolution française, puisqu'on va nationaliser les biens de l'Église.
Oui, c'est ça.
Pas les biens des nobles, parce que les gens à chaque fois disaient les châteaux ils ont été vendus. Non. Il y a juste les nobles qui s'étaient enfuis. Mais sinon c'est les biens de l'Église. Et comme on va les nationaliser et qu'on va les vendre, derrière on en fait l'inventaire. Donc on fait des inventaires très complets de ce qu'il y avait à l'intérieur des églises, des chaises, des ostensoirs, etc. Et comme ça, on sait à l'intérieur comment
tout est installé. Il y avait des chandeliers en argent, il y avait tant de choses comme ça.
Ouais. Et tout ça, ça va être refait aussi avec la loi de 1905.
Oui.
Puisqu'avec la loi de 1905, on va refaire un inventaire, ce qui fait qu'on peut voir l'évolution en un siècle, comment ça avait bougé à l'intérieur des églises. Nous, la séparation, elle a déjà vraiment commencé un peu à la Révolution française, puisque c'est là qu'on avait dit nationalisation des biens. Dans les communes, les églises, c'est le problème de la paroisse et de sa fabrique, puisque c'est eux qui géraient les biens. Mais ce n'était pas très clair jusqu'à la loi de 1905, parce que les églises appartenaient donc à la paroisse. Donc c'est la paroisse qui l'entretenait. Mais quand la paroisse n'avait pas de sous, c'est la mairie qui devait payer. Bon, alors souvent, elle n'avait pas de sous, la paroisse. Donc, et c'était des bagarres entre les maires et puis les curés. Le curé qui disait, moi, par exemple, j'ai un vitrail qui est foutu, il faudrait le remplacer, il faudrait le refaire, le rejointoyer. Et le maire qui répondait, oh, mais attendez, vous avez de l'argent et vous avez prévu d'acheter un ciboire. Le ciboire, c'est quand même peut-être pas plus important que le vitrail. Et donc, c'était bagarre, ça remontait à la préfecture pour savoir qui payait quoi. À Rochecorbon, le petit escalier qu'il y a dans l'église de Rochecorbon, il y a un petit escalier qui a été construit cette fois-ci à la fin du 19e. Et donc, on prévoit un grand escalier qui monte, qui permet d'accéder aux charpentes, etc. Puis quand ils construisent, ils disent « Oh non, on n'a pas les sous comme ça ». Donc on rechange la hauteur, on reperce à l'intérieur de l'église. Enfin bref, à l'époque, il n'y avait pas les contrôles comme il peut y avoir maintenant, où il y a des dossiers très, très pointus, avec des spécialistes, etc. À l'époque, on faisait ça un peu comme on pouvait, avec les moyens qu'on avait. On voit bien, l'exemple, c'est les monuments historiques. La première liste qui va sortir en 1840, en fait, c'est là où on commence à prendre conscience qu'il y a quelques traces du passé qu'on voudrait garder. Et l'idée à l'époque, c'était les monuments historiques, c'est on gardait un bâtiment typique des lieux en l'état, qu'on classait. Mais un, c'est-à-dire s'il y avait 10 châteaux sur une commune, on regardait celui qui était le plus typique. Et puis celui-là, on le protégeait, puis eux, on ne le protégeait pas. Alors, tout ça, ça a été un peu dévoyé, un peu détourné, parce que tout le monde, après, voulait justement sa propre protection, ce qui permettait notamment de toucher quelques subsides. Maintenant, c'est moins évident, parce que maintenant, les conditions sont tellement strictes pour réhabiliter un monument historique que ça coûte une fortune. Donc, même avec l'aide de l'État, ça coûte encore très cher. Donc, ils demandent moins. Mais huit un temps, au départ, on ne classait que quelques monuments. Puis après, on a tout mis. À Rochecorbon, dans les premiers classements, il n'y avait aucune église. Mais maintenant, elles sont toutes classées.
Mais on retrouvera des églises, parce qu'il y a un exemple dans ma famille du côté de ma grand-mère maternelle. C'était une très grande famille qui avait à côté de l'étang de la ville, et ils avaient une collection de livres anciens. Ils ont donné Bibliothèque de France. La Bibliothèque nationale, donc ils doivent en avoir des montagnes.
Ah oui. Ouais. Mais nous, c'est un souci d'ailleurs ici, c'est que quand une personne décède, cette personne, généralement, elle avait des archives, des documents anciens, des photos anciennes, etc. Et tout ça, ça finit à la poubelle. Parce que la jeune génération est moins sensible à ce genre de choses. Et puis, nous, historiens, même notre association, nous, le Phare, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite dès que la personne est décédée pour aller voir la famille en disant « ne jetez pas, donnez ça aux archives départementales, etc. » Ça fait un peu rapace, donc on ne le fait pas. Et puis après, une fois qu'on a laissé un petit peu de temps pour que le deuil passe, on va voir la famille, ils disent « bah, ça y est, on a tout vidé, on a tout jeté. »
Allez, prenez-vous bien.
Allez, bonne journée.
Au revoir.
Le nouveau bâtiment, là, notre vaste salle polyvalente, pôle culturel, etc. Donc, ce qui s'appelle, alors c'est la petite rue qui passait le long de l'église. On va passer, peu importe. Cette petite rue, c'était un guet qui permettait de franchir le marécage. Donc, il fallait remonter dans la vallée jusqu'à cet endroit-là. Là, on pouvait traverser. Avant, on ne pouvait pas, avant la construction de la rue du Moulin. Mais sinon, on ne pouvait pas, il fallait remonter jusque-là. Donc, ça permettait de... C'était le guet, en latin, vodum, qui permettait de franchir le marécage, en latin, ana. Donc, c'est vodana. Le lieu s'appelle Vodanum. Vodanum, c'est le guet qui permettait de franchir le marécage. Tous les noms, ici, évoquent, je veux dire, l'eau, le marécage... Au-dessus, juste au-dessus, il y a un petit château qu'on voit là, tout en face. C'est le château de Fontenaille. Fontaine. La rue en dessous, c'est la rue des Fontenelles. Il y avait beaucoup d'eau, quoi. Voilà cet endroit, là on arrive au bout, là ça commence un peu à s'élargir. Donc là on commence à voir quelques belles propriétés aussi. Parce que là il commence à avoir un peu de terrain ici. Donc là les Pitoisières, avant c'était un domaine qui appartenait entièrement à l'église. Donc qui était détenu par un prêtre, par un moine, etc. de Tours généralement. Et donc ces grands domaines-là, c'est pour ça qu'on disait que ça appartenait à l'église, mais alors l'église les vendait. Alors c'était compliqué, c'était un bail à rente, enfin c'était une... On vendait à une personne, on vendait la propriété. Donc la personne qui l'avait achetée était propriétaire, à la condition de payer chaque année une certaine somme d'argent. Tant qu'elle payait cette somme d'argent chaque année, elle était propriétaire. Donc elle pouvait faire ce qu'elle voulait. C'était plus qu'un locataire, c'était le propriétaire. Elle pouvait faire évoluer son domaine, etc. Et si jamais un jour elle ne pouvait plus payer, eh ben celui qui l'avait vendu récupérait. Donc c'est l'église de Tours qui possédait des quantités de propriétés et qui les avait vendues sous cette forme-là à des personnes. Donc c'est pour ça qu'on voit les propriétaires, on dit c'est un bien de l'église. Mais en fait, il y avait quelqu'un, des fois ça pouvait être un bourgeois de Tours qui l'avait acheté. Donc on voyait cette propriété d'un bourgeois de Tours, mais on disait c'est un bien de l'église. Alors là, je ne sais pas si on va aller plus loin. Là, on va peut-être redescendre, ouais. Parce que sinon, on va aller venir un peu trop loin. Alors là, ce qu'on voit pas ici, c'est les Pitoisières. On a vu hein, la maison là-haut qui s'appelle les Pitoisières. Et là-haut, ça s'appelle toujours les Pitoisières. Hein. Donc c'était une immense propriété là, qui faisait toute cette longueur. Et à l'arrière de cette propriété, c'est dans la propriété, on n'y a pas accès. Il y a une chapelle classée, une chapelle troglodytique classée. Donc à Rochecorbon, on a une église classée, l'église Notre-Dame de Vaulne, la principale, l'église paroissiale, l'église de Saint-Georges, qui est là, même encore plus ancienne que l'église de Rochecorbon, et puis ici, la chapelle des Pitoisières. Mais qui est moins ancienne, celle-là, elle serait plutôt du 15e. Alors que nos deux autres églises sont du 11e. Et ça, on avait déjà fait l'église.
Après une bonne heure de balade sur le coteau est de la commune, du sud vers le nord, nous allons redescendre par la rue du Docteur Lebled, à suivre dans le prochain épisode. Rock Body Good Radio.